Voilà quelques semaines, ici à Rage Against le matin, on avait eu une belle discussion, une discussion assez puissante avec Émilie Arsenault et Amélie Lemieux. Vous les connaissez, c'est deux mamans d'enfants assassinés par leur ex-conjoint et les papas des enfants. Vous connaissez les histoires d'Émilie et d'Amélie. On a jasé du fait que le ministre québécois de la Justice, Simon-Jolin Barrette, avait modifié le régime d'indemnisation des victimes d'actes criminels, donc l'IVAC, ce qui fait en sorte qu'on va perdre de l'indemnisation pour ces victimes-là, les situations d'ailleurs des deux mamans. Et elle, ce qu'elle voulait, c'est justement, Jeff, une discussion de s'asseoir puis pouvoir parler avec le ministre Jolin Barrette.
Oui, puis super nouvelle, vendredi vers l'heure du midi, Émilie me texte et me dit « Jean-François, moi, Émilie, on va aller rencontrer le ministre Jolin Barrette. » Fait que là, je suis « Wow, quelle bonne nouvelle, je suis donc bien content pour vous. » Ben, en passant, t'en remercieras en honte Québec solidaire. C'est grâce à tout leur travail dans l'opposition qu'on a cette rencontre-là. Fait que je me suis dit, ben pourquoi pas jaser avec le Parti Québec solidaire.
On va jaser avec Christine Labrie, qui est députée de Sherbrooke, Québec solidaire. Elle est au bout du fil. Madame Labrie, bon matin.
Bonjour.
Merci d'être là avec nous ce matin.
Ça me fait grand plaisir.
C'est une excellente nouvelle que Émilie et Amélie vont finalement s'asseoir et rencontrer le ministre Jolin Barrette.
Oui, absolument. Je suis très heureuse qu'il ait accepté de les rencontrer. Je l'avais interpellé jeudi matin en chambre après qu'il y ait eu un article dans Le Devoir concernant l'histoire de ces deux mamans, également d'un homme qui avait été victime de son père bourreau, qui se sont fait annoncer la fin de leurs prestations là, dans les prochains mois. J'espère par contre que cette rencontre-là, ce sera pas seulement pour expliquer l'état du régime d'indemnisation aux personnes victimes et qu'il y aura une réelle ouverture à faire des changements pour prolonger l'aide qui leur est offerte.
Mais d'ailleurs, Mme Labrie, qu'est-ce qu'on dit chez le gouvernement par rapport aux changements à la réforme de l'IVAC?
Quand on a réformé l'IVAC dans les dernières années, l'objectif c'était d'élargir l'accès au programme. Avant, il y avait une liste de crimes pour lesquels on pouvait être admissible. Maintenant, il n'y a plus de liste. Donc, on a vraiment rendu le programme accessible à beaucoup plus de personnes qu'avant. On voulait aussi améliorer le traitement des délais. Le ministre plaidait que comme le programme serait accessible à plus de monde, ça allait donc coûter plus cher. Il voulait mettre une limite temporelle là, aux indemnisations. Il a fixé cette limite-là à 5 ans maximum. Donc, c'est 3 ans avec une possibilité de prolongation de 2 ans. Puis, on l'avait déjà alerté à l'époque que c'était pour mettre une pression énorme sur les victimes, que ça marchait pas comme ça, se rétablir, par exemple, d'un deuil ou d'une agression. Lui, il nous avait expliqué que la très vaste majorité des personnes, de toute façon, leur dossier était réglé à l'intérieur de 5 ans. Puis on lui disait, ben tant mieux.
Oui.
Alors, pourquoi pas laisser la possibilité ouverte? De toute façon, dans la majorité des cas, c'est réglé avant 5 ans. Il y aura toujours des cas pour lesquels il va falloir que ce soit plus long.
Oui, parce qu'on s'entend, dans le cas d'Amélie Lemieux, je la cite en exemple parce qu'elle l'a bien expliqué à nos micros, elle vit avec une angoisse et un stress qui va demeurer là à vie compte tenu du drame qu'elle a vécu. Donc, de mettre une pression sur une personne comme Amélie Lemieux, c'est complètement malsain de la part du gouvernement.
Totalement, puis même ça peut ajouter un stress qui nuit au rétablissement. C'est juste vrai. Que la personne n'est pas prête à retourner au travail à ce moment-là. Imaginez, là, vous allez pas bien, vous avez vécu un drame immense comme celui-là, puis on vous envoie une lettre pour vous dire, bon, mais à partir de telle date, ça va être terminé, là, vous devriez aller mieux, vous devriez être guéri, vous devriez pouvoir retourner sur le marché du travail. Écoutez, c'est comme dire à la personne qu'elle est inadéquate de ne pas avoir réussi à s'en remettre encore, alors qu'on parle d'un drame invivable que personne voudrait subir. Donc, moi, je trouve que ça manque d'humanité d'avoir une règle aussi arbitraire que celle-là dans le régime. Ce que je voudrais, c'est plus de souplesse de la part du ministre. On est ouvert, nous, à modifier la loi pour ajouter là, une plus grande place des accommodements.
Oui, vous touchez un bon point parce qu'il y a tout un côté estime de soi également là-dedans. Puis je me demandais, est-ce que ça ne devrait pas être une personne indépendante, un médecin, un psychologue, par exemple, qui, justement, juge de l'état, puis si la personne est apte à retourner au travail ou non?
Exactement. Bien, ça pourrait tout à fait fonctionner comme ça. Puis le ministre a raison que statistiquement, dans la majorité des cas, le rétablissement a eu lieu avant la limite qu'il a ciblée. Donc, pourquoi pas laisser les professionnels de la santé déterminer si la personne, elle est apte à retourner au travail ou pas, pour qu'on puisse maintenir les indemnités quand elle en a encore besoin, au lieu de lui mettre cette pression-là d'aller mieux. Vous savez, quand on va pas bien, c'est pas une date butoir là, qui va nous faire aller mieux avant cette date-là.
Non, puis au contraire, ça va être plus néfaste, vous l'avez mentionné tantôt. Là. Ça va avoir un effet négatif au contraire.
Absolument. Puis d'ailleurs, moi, j'ai trouvé ça frappant. On le voyait dans les témoignages des victimes qui se sont exprimées là-dessus. Puis elles sont certainement pas les seules à avoir reçu une lettre comme celle-là. Moi, je les remercie d'avoir accepté de prendre la parole sur la place publique, malgré tout ce que ça implique émotivement pour elles, parce que ça met la lumière sur un enjeu. Nous, on avait tenté de le prévenir à l'époque. Mais là, maintenant, qu'il peut mettre des visages, des histoires sur les situations que ça concerne, la date arbitraire, le délai arbitraire qu'il a imposé. J'espère que ça va le pousser à être plus souple. Ça prend des histoires comme ça, absolument, souvent pour convaincre un ministre de bouger. Là.
On parle de souplesse, mais présentement, on parle beaucoup de l'IVAC, justement, pour peut-être trop de souplesse qui amène des situations indésirables. Encore ce matin, dans la presse, on nous amène des situations. Bon, on nous dit que l'indemnisation du harceleur dont on parlait la semaine passée ou l'autre d'avant, là, qui était indemnisé alors qu'il n'aurait pas dû pantoute, bien ça, on aurait mis fin à ça. Mais on nous parle d'autres histoires, notamment là, une femme qui prétendait que ses deux enfants sont nés de viol subis par deux pères différents. C'est faux, ça a été démontré devant les tribunaux. Mais la femme à qui on a d'ailleurs retiré la garde de ses enfants reçoit des indemnités de l'IVAC. Va falloir trouver un équilibre à un certain moment pour dire OK, oui, on veut être souple dans qui on indemnise, mais à un moment donné, on se tire peut-être plus dans le pied que d'autres choses.
Bien, vous avez raison, ce sont des situations, moi, qui me préoccupent. En même temps, l'IVAC, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir, par exemple, porté plainte ou avoir eu gain de cause en cours pour être indemnisé quand on est victime. Et je pense que c'est souhaitable que ça reste ainsi, parce que c'est pas tout le monde qui veut judiciariser son histoire. Et puis, ça permet de ne pas imposer là, le processus judiciaire puis d'engorger les tribunaux avec des personnes qui souhaitent même pas le faire. Et de quand même les aider là, à leur rétablissement. On veut aussi que les dossiers soient traités rapidement parce que dans le passé, ben, ça prenait parfois plus d'un an là, avant que la personne puisse commencer à recevoir du soutien. Mais quand il y a des jugements, là, et ça prend des gens qui étudient dans les dossiers les situations, puis quand il y a des jugements qui disent clairement là, qu'une des deux personnes était victime et l'autre non, il me semble que ça devrait être pris en compte effectivement pour corriger a posteriori des erreurs. Si on a procédé trop vite pour verser des indemnités à quelqu'un qui finalement n'était pas la victime mais bien l'agresseur, ça se corrige. Ça devrait se corriger plus facilement que ce qu'on a vu là, dans les médias dans les derniers jours.
On jase avec Christine Labrie, députée de Sherbrooke pour Québec solidaire. Madame Labrie, comment ça se passe ailleurs dans les autres provinces canadiennes et est-ce qu'on a comparé les régimes ailleurs avant de modifier l'IVAC-ci?
On a un régime qui est plus généreux au Québec, okay. Quand même. Là, on est privilégié là-dessus, je vous dirais. Mais c'est important, ce régime-là, qu'on s'est doté au Québec, parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est que les personnes qui ont subi un crime puissent se rétablir. On veut leur offrir notre soutien. On veut qu'elles puissent redevenir actives comme elles l'étaient avant, retrouver leurs moyens. Donc, moi, je suis fière qu'on ait ce régime-là ici au Québec. Après, il est pas parfait. C'est sûr que ça me désole toujours d'être en mode « je vous l'avais dit ». Ouais. Quand on étudie un projet de loi tous ensemble, puis qu'il y a des gens autour de la table qui essaient d'éclairer le ministre sur ses angles morts, ça vaut la peine d'écouter ça. Quel que soit le sujet du projet de loi, parce qu'au final, on se retrouve quelques années à subir les conséquences de ne pas l'avoir écouté. On l'a dit mot pour mot, puis je n'étais pas la seule, je me souviens, Véronique Yvon était autour de la table aussi à dire la même chose. On l'a dit mot pour mot qu'une date butoir, ça allait créer de la détresse, puis qu'on allait même empirer le problème là, de certaines victimes. Puis à ce moment-là, il y avait un refus d'écouter. Je pense qu'on aurait pu éviter des situations comme celles qu'on voit en ce moment s'il y avait eu plus d'écoute autour de la table. Puis ça, c'est un problème qui est pratiquement généralisé, là. Très peu de ministres vont prendre le temps d'être sensible aux préoccupations des députés de l'opposition quand on écoute les projets de loi. On réussit à aller chercher quelques amendements, puis d'ailleurs, on avait réussi sur ce projet de loi-là de réforme de l'IVAC, mais sur des questions plus fondamentales comme celle-là, c'est rare qu'ils acceptent de bouger. Puis après, on se retrouve avec les problèmes qu'on avait anticipés. Moi, franchement, je commence à trouver ça un peu désolant parce qu'on aurait pu l'éviter, cette situation-là, pour les personnes qui la vivent, là, qui ont reçu la lettre, là, comme quoi, telle date en octobre, ça va être terminé.
Madame Labrie, en terminant, je suis très d'accord avec vous que ça aurait pu se jouer plus en prévention qu'après coup. Mais maintenant qu'on a des images concrètes avec les dossiers d'Émilie Arsenault et Émilie Lemieux et qu'il y aura cette rencontre-là avec M. Jolin Barrette, quel est votre degré de confiance qu'on modifie la règle, justement?
Bien, moi, j'espère que le ministre Jolin Barrette va être sensible aux effets de la date butoir sur les victimes. Je le sais, soucieux de vraiment contribuer au rétablissement des victimes. J'espère qu'il va comprendre à quel point ça nuit en ce moment d'avoir une mesure arbitraire comme celle-là. Il y a moyen de changer la loi. Nous, on est ouverts à la réouvrir. On lui avait suggéré dans le passé, par exemple, de s'ajouter un pouvoir discrétionnaire pour pouvoir intervenir à la pièce là, quand il y a des dossiers plus particuliers. C'est une option. Une autre option, vous l'avez nommée, pourrait être de mettre ça entre les mains des professionnels de la santé et des services sociaux pour déterminer si une personne est apte à retourner au travail ou pas. Il y a plusieurs manières de procéder pour ajouter de la souplesse, mais une chose est certaine, ça prend plus de souplesse parce que les situations sont différentes, puis on ne peut pas donner le même délai là, maximal à tout le monde pour se rétablir d'un crime.
Absolument. Tellement d'accord avec vous. Christine Labrie, députée de Sherbrooke, Québec solidaire, merci beaucoup pour votre temps ce matin, Mme Labrie.
Ben, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée.
Merci. Merci. Vous aussi. Je me souviens de Émilie et Amélie en studio avec nous, de jaser puis me dire ben c'est un non-sens total. Oui. Je ne voyais pas pantoute, je le sais qu'à quelque part, c'est pour que ça soit plus large, puis on fait attention au coût, puis blablabla. Mais il n'y a aucun sens à mettre une date sur le deuil de quelqu'un, puis non. De juger que tout devrait être réglé par cette date-là.
Amélie Lemieux est assise juste à côté de moi à la place de Max, puis je voyais encore la détresse dans ses yeux après toutes ces années, puis le mal de vivre.
Ouais.
Donc, c'est épouvantable qu'on dise à cette dame-là qui a vécu un drame abominable que personne ne veut le vivre. « Hey, sais-tu quoi? Ta date de péremption, toi, c'est 3 ans.
Ouais. » Ouais.
Puis après ça, là, organise-toi que t'es troubles.
Tu devrais être correct. C'est choquant.
Ça n'a pas de sens.
Tu devrais être correct.
Ouais.
Et puis, t'as eu en masse de temps.
Oui, puis en plus, moi, j'aime ça faire des suivis de dossiers comme ça parce que, vois-tu, avec Christine Labrie, on apprend que la très grande majorité des dossiers se terminent entre 3 à 5 ans. Fait que pourquoi pas gérer l'exception quand les gens là, ont vraiment vécu un événement hors norme? Là, parce qu'on s'entend, ce qu'Émilie Arsenault et Amélie Lemieux ont vécu, c'est hors norme. Il n'y en a plus au Québec qui le vivent, puis heureusement, là, on s'entend.
Ouais.
Donc, pourquoi pas les gérer à la pièce?
Puis y aller cas par cas.
Mais oui.
Absolument, tellement d'accord.
Ça coûte à rien là, à l'administration publique là, continuer à aider Émilie Lemieux et Émilie Arsenault. Là.
Courte pause, on revient tout de suite après. Entre autres, on va trouver ensemble l'indice du jour pour le concours Enviro-Confort. Et il y a le ministre Pierre Fitzgibbons qui a déclaré vendredi que les Québécois étaient les derniers de classe en matière de sobriété énergétique. Est-ce que c'est vrai ou pas? On va en parler avec le spécialiste Normand Mousseau. Restez là.